amoureux du jazz, Marie-France Guimaroche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Jeanne est belle, jeune, pleine de charme, presque collée à lui, ils se regardent amoureusement. Les yeux dans les yeux, avec une petite flamme qui ne trompe pas. Miles lui sourit, tout en soufflant dans sa trompette bouchée, un wah-wah sur le pavillon. Jeanne Moreau et Miles Davis se sont pris en photo lors du visionnage du film « Ascenseur pour l'échafaud ». L'album Ascenseur pour l'échafaud reprend la bande originale réalisée en 1957 par Miles Davis du film de Louis Malle. Barney Whelan est au sax ténor, René Hurtreger au piano, Pierre Michelot à la contrebasse, Kenny Clarke à la batterie et Miles Davis, bien sûr, à la trompette. L'année 1957 fut celle de la consécration pour Miles Davis. Elle avait pourtant commencé dans l'adversité, par une tournée au cours de laquelle les problèmes de drogue de John Coltrane, aggravés par l'influence néfaste de Philly Joe Jones sur ce dernier, avaient forcé Miles à renvoyer les deux musiciens de son premier grand quintet en mars et à dissoudre bientôt entièrement la formation. En mai, Miles entra en studio pour enregistrer Miles Ahead, sa première grande collaboration avec Gil Evans chez Columbia Records, dont la parution à l'automne allait asseoir définitivement son statut de superstar dans le monde du jazz et au-delà. Comme Louis Malle devait faire vite afin de pouvoir soumettre son film à temps pour le prix Louis de Luc, il n'eut le temps d'esquisser que quelques idées grâce à un piano qui fut transporté dans sa chambre d'hôtel pour l'occasion. La séance d'enregistrement organisée par Marcel Romano eut lieu dans la nuit du 4 au 5 décembre au studio du Poste Parisien où Jeanne Moreau, la principale interprète du film, accueillit les musiciens derrière un bar improvisé. Barney Whelan, René Oertreger, Pierre Michaud et Kenny Clarke, qui n'avaient pas été informés du visionnement tenu quelques jours plus tôt, furent surpris par le calme et l'assurance de leur leader, qui agissait comme s'il savait exactement ce qu'il voulait faire et ce qu'on attendait de lui. Louis Malle expliqua aux musiciens que la musique devait être en net contrepoint de l'image et il les encouragea par conséquent à ne jamais chercher à travers leur jeu à traduire ou à refléter directement l'action. Des extraits de 20 à 30 secondes du film furent projetés sur lesquels le groupe improvisa très librement à partir d'instructions sommaires de Miles Davis, visant surtout l'atmosphère à rendre. 3 heures à peine suffirent pour enregistrer une cinquantaine de minutes de musique, dont 18 furent utilisées pour le film. À en croire Miles, le seul véritable problème rencontré au cours de la séance fut de faire coller des séquences musicales à la démarche de Jeanne Moreau, qui manquait, selon lui, cruellement de rythme.
Thank you.
L'utilisation du jazz à des fins cinématographiques sous la forme inaugurée en France par « Sait-on jamais » de Vadim et « Ascenseur pour l'échafaud » connut une postérité immédiate. Pour sa comédie policière de 1958, « Des femmes disparaissent », Édouard Molinaro fit appel aux « Jazz Messengers » d'Art Blakey. La même année, aux États-Unis, Robert Wise confia à Johnny Mandel la composition de la bande originale de son film noir « Je veux vivre, I want to live », qui remporta l'Oscar de la meilleure actrice. On peut entendre sur cette bande originale le gratin des jazzmen de la côte ouest américaine, notamment Jerry Mulligan, Art Farmer et Shelly Manne. En 1959, Duke Ellington et son orchestre se distinguèrent en réalisant la musique couronnée d'un Grammy Awards de la meilleure bande originale de film, Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger. La télévision américaine emboîta également le pas à la tendance. Le big band de Henry Mancini signa le thème repris à satiété et lauréat d'un Emmy Award et de deux Grammys de la populaire série policière Peter Gunn, diffusée à partir de 1958 sur la chaîne NBC. Et le combo de Pete Candoli interpréta la musique de Johnny Staccato, autre série policière, diffusée à partir de 1959 sur la même chaîne. Ces diverses collaborations concoururent à associer dans une partie de l'imaginaire collectif de la fin des années 50 et des années 60 le jazz à des scènes de suspense et de violence. Plusieurs spécialistes considèrent aujourd'hui que la réalisation d'Ascenseur pour l'échafaud eut une incidence considérable dans l'évolution artistique et la carrière de Miles Davis. Il s'agit de la première œuvre, autre qu'un morceau de musique, dont il eut à assumer à lui seul l'intégralité de la composition, ou peut-être plus exactement en l'occurrence, l'intégralité de la conception. En outre, cette musique au son et au style si distinctif n'avait exigé aucune préparation préalable avec les autres musiciens. Et plutôt que d'être fondée sur des thèmes, elle avait principalement été créée à partir de séquences harmoniques simples. Le processus de création d'Ascenseur pour l'échafaud mérite donc d'être rapproché sous certains rapports de celui de Kind of Blue, et la musique qui en résulta pourrait préfigurer de par son caractère abstrait le style post-bop que cultiva dans les années 1960 le second grand quintet de Miles avec Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams. Thank you. la photo dont je vous parlais en débutant cette émission illustrait un article du Figaro du 22 novembre 2007, signé par Claire Gottfried, l'homme qui faisait parler la poudre. Alain Gerber, le spécialiste du jazz, s'est glissé dans la peau de Miles Davis. Portrait d'un monstre sacré, doublé d'un sacré monstre. Le soir du 4 décembre 1957, Miles Davis, tout de noir vêtu, débarque au studio de cinéma du Poste parisien. Il a 31 ans et porte beau. Jeanne Moreau l'accueille derrière un bar aussi improvisé que la musique qu'il cisèle en visionnant sur un grand écran les bobines d'ascenseur pour l'échafaud. Sa trompette déchire la nuit. Boris Vian, qui assistait à l'enregistrement, raconte que lors d'un morceau, le son de Miles est souvent devenu étrange, unique, à cause d'un fragment de lèvres coincé dans l'embouchure de son instrument. Magie de l'instant. Pour atteindre ce nirvana, Miles n'a-t-il pas aussi usé de ces substances qui aident les jazzmen à faire le joint avec eux-mêmes ? À moins qu'il n'ait fait parler la poudre de ses rails de coke, qui ne le quitte plus, hélas, depuis 1946. En tout cas, le succès du film Nouvelle Vague, signé Louis Malle, fit de Miles Davis une figure légendaire du jazz. Au petit matin, marchant dans les rues, l'Américain allongea probablement le pas en pensant à sa muse de Saint-Germain-des-Prés. Sa Juliette l'attendait avec impatience dans les salons d'un palace parisien qui, oh surprise, ne refusait pas de servir un noir. La Gréco fut le sésame de Miles. Il la rencontra fin avril 1949 en présence de Picasso et de Jean-Paul Sartre. Elle lui apprit ce que c'était que d'aimer quelqu'un d'autre que la musique. Il ne l'épousera pas car il l'aimait trop pour lui faire du mal. Enfin musicologue, Alain Gerber ne s'attarde pas sur ces détails bien connus des aficionados du swing. Après une série de biographies classiques, l'auteur du Verger du Diable, prix interallié, s'est décidé en 2002 à romancer la vie des géants du jazz qui ont fait de cette obscure musique de dancing afro-américaine un art. Ses ouvrages sur Louis Armstrong, Chet Baker, Charlie Parker, Billie Holiday l'attestent.
Thank you.
Cette fois, Alain Gerbert, le romancier, se glisse dans la peau du célèbre trompettiste et de ses complices à baguette, car la plupart des batteurs jouissent d'une relation privilégiée avec lui. Max Roach, Kenny Clarke, Philly Joe, Tony Williams, Al Foster. Il en sera de même avec l'électrique Jimi Hendrix ou encore Walt, un boxeur à la retraite qui, ayant connu l'artiste enfant, le dissuada d'enfiler les gants. Grâce à cet orchestre en forme de chœur antique, le romancier va faire jouer une surprenante partition à Miles et à sa trompette de la renommée. Si l'on savait que le mythique musicien, né le 25 mai 1926 à Alton, en Illinois, était beau comme un dieu, on sait moins qu'il ne cessa de défrayer la chronique des faits divers. Derrière la lumière de son génie musical, Gerbert nous dévoile la noirceur de certains de ses actes. D'une écriture imagée et précise, le spécialiste du jazz fouille le contexte et la personnalité de celui qui, rien qu'avec les trois doigts de sa main droite, voulut défier au bras de fer Chronos, ses armées de calendriers, ses légions d'horloges et ses cohortes de métronomes. Traumatisé dès l'enfance, victime de ses faiblesses et du racisme ambiant, Miles resta pourtant sa vie entière coincée entre deux étages, le paradis et l'enfer. Comme le laisse deviner le livre, la mélodie éternelle de son ascenseur pour l'échafaud résonne encore, comme autant de désirs tendus vers l'apaisement.
Thank you.
Louis Malle himself commenta la musique de son film. « J'étais un cinglé de jazz. La musique d'ascenseur est unique. C'est l'une des rares musiques de film qui ait été entièrement improvisée. Je passais les séquences sur lesquelles on voulait mettre de la musique et il commençait à répéter avec ses musiciens. Le film en était métamorphosé quand on a ajouté la musique. Il a soudain décollé. » Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro enregistré et réalisé par Émilie Glory, pour vous, dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.